Les jardinières.
Ce matin, nous quittons le potager pour vous emmener dans un jardin botanique. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Durant une heure, nous allons vous faire visiter le jardin botanique de Porrentruy, découvrir les serres et le jardin jurassien en compagnie de Gilles Monnier et Marc Lamblay. Messieurs, bonjour.
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 Et merci d'avoir...
Merci d'avoir accepté notre invitation, Gilles Monnier et Marc Lamblay. Vous êtes tous deux jardiniers au Jardin Botanique de Porrentruy et nos invités jusqu'à 8h.
Et bon début de week-end avec les jardinières qui vous emmènent à Porrentruy au Jardin Botanique.
7h, 8h, les jardinières.
Le Jardin Botanique de Porrentruy est ouvert toute l'année. Si on vient ce week-end, Marc et Gilles, qu'est-ce qu'il faut voir absolument ?
Ben, actuellement, moi, avec le temps maussade qui fait, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans un climat tropical. Donc, actuellement, pour nous dépayser, on a un bananier qui est en train de faire des fruits. Donc, ça peut être intéressant de voir comment poussent les bananes, en fait.
Merci beaucoup, Gilles. Pardon, vous avez un complément
Ce serait ce qui a d'intéressant avec le temps froid d'aujourd'hui, ce serait la chose qui me viendrait à l'esprit.
Donc si vous avez un peu trop froid, rendez-vous au Jardin Botanique de Porrentruy pour un petit climat tropical et puis voir comment on pousse les bananes. Voilà, merci beaucoup Gilles et Marc. On se retrouve dans un instant après une petite pause musicale pour se balader dans les serres du Jardin Botanique.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Marc Lamblay et Gilles Monnier, jardinier au Jardin Botanique de Porrentruy.
Gilles Monnier, Marc Lamblay, vous nous avez fait visiter le Jardin Botanique. Mais avant d'entrer, vous nous avez rappelé quelques règles importantes à respecter. Tout d'abord, on ne touche pas les plantes.
Oui, bah, c'est mieux de ne pas toucher, effectivement. Déjà qu'il peut y avoir des plantes toxiques, des plantes fragiles, et puis on peut abîmer des choses. Donc on observe avec les yeux, comme on dit aux enfants, et puis on touche avec les yeux, et puis on ferme les portes, parce qu'il y en a des climats différents entre chaque serre, en fonction des plantes, c'est vraiment par catégorie, et puis c'est pas mal de fermer les portes.
Parce qu'ici il fait bon, ouais, c'est agréable.
Ouais, il fait bon, ouais, tout à fait. Ouais. Alors en été, quand il fait chaud, on a des ombrages, il y a de l'aération qui permet de ne pas non plus monter trop en température, en hiver du chauffage. On essaie d'avoir toute l'année le même climat. Et ce qu'il faut faire attention aussi, par exemple, on ne fume pas, on n'en vient pas avec des animaux qui peuvent détruire différentes choses. Et...
Justement, en parlant d'animaux, peut-être des fois il y a des fenêtres qui sont ouvertes. S'il y a une abeille suisse ou comme ça qui rentre, ça pose des problèmes, ça ?
Absolument pas, non. Au contraire, elle va nous aider à polliniser.
Parce que vous devez polliniser à la main, sinon ?
Ça arrive, oui. Ça dépend des plantes, si on veut avoir un certain fruit ou des graines. Quand on voit que ça ne marche pas, avec le temps, on se dit, tiens, il faut remplacer les insectes.
Alors ici, on est dans une serre où les plantes sont très, très grandes. C'est-à-dire qu'elles sont là depuis plus longtemps.
C'est un peu l'intérêt de cette serre. Donc, elle est beaucoup plus haute que les autres. Du coup, on a aussi un sol plus profond et on peut mettre des plantes qui peuvent mieux se développer, bien qu'on ait un port naturel plus haut. Le bananier que vous avez là, on voit qu'il s'est bien plus développé que celui qui est à côté.
Et le truc qui pend au bananier, c'est une fleur de banane.
Et après, vous avez des bananes qui vont se développer. D'ailleurs, on les voit, là, elles sont dans leur bonne position, comme disait mon collègue. Elles pendent vers le bas et on voit en haut des bananes vertes aussi.
Donc là, on est dans la partie plante succulente. Qu'est-ce qui change quand on doit s'occuper de cactus par rapport aux autres plantes tropicales ou aux orchidées ?
Ce sont des plantes qui sont sensibles aux excès d'eau. Donc on arrose moins, ça veut dire moins souvent. Après, on s'arrête aussi d'arroser plusieurs mois. Par exemple, là, entre octobre et mars, on n'arrose plus. On les laisse vraiment sur le sec. Ça favorise la mise à fleur aussi de certaines espèces. Et après, quand on arrose, c'est en gros une fois toutes les deux semaines.
Et là derrière vous, il y a, on dirait un vieil arbre, en fait. Mais c'est une plante ou c'est d'autres plantes qui ont poussé dessus ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un arbre à épiphyte. Épiphyte, c'est des plantes qui poussent sur les arbres, justement, sans les parasiter. L'arbre en question... Alors c'est vrai que les gens nous posent la question, c'est quoi comme arbre ? Petit mélange d'acier et d'écorce de liège.
Donc, c'est un support ?
C'est un support, oui, c'est un arbre artificiel.
C'est incroyable. Mais qu'on se rassure, la majorité des plantes qu'on peut voir au Jardin Botanique sont des vraies. Gilles, dans ces serres, c'est laquelle votre serre préférée ?
Alors moi j'ai une petite préférence pour la serre des orchidées, parce que les orchidées c'est une famille de fleurs extraordinaires déjà visuellement, puis qui ont... aussi une diversité monumentale. On a plus de 25 000 espèces à travers le monde. On en trouve aussi chez nous, mais on a des espèces, beaucoup d'espèces tropicales. Et il y a régulièrement des fleurs qui, extraordinaires qui viennent en, qui fleurissent. Et puis c'est la, ma petite, c'est la serre que je choisirais, si je, celle qui m'intéresse le plus, on va dire, qui est ma préférée.
Et même question pour vous, Marc, quelle est votre serre préférée ?
C'est la serre des succulentes, donc les plantes grasses, les cactus. Non seulement on a une des plus belles collections de Suisse, mais elle est bien mise en valeur. Il y a un aménagement fait de rochers qui nous font croire qu'on est dans le désert.
C'est vrai, on a pu la voir avec Brian, cette serre. Il faut vraiment aller jeter un œil du côté de Port-en-Truy. Au Jardin Botanique, merci beaucoup, on va se retrouver dans un instant, on va parler un peu de l'histoire des Jardins Botaniques, mais surtout du Jardin Botanique de Port-en-Truy.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières vous emmènent à Port-en-Truy, au Jardin Botanique. Nous sommes en compagnie de Gilles Monnier et Marc Lamblay. Avant de parler du Jardin Botanique de Port-en-Truy, est-ce que vous pouvez nous dire, messieurs, à quoi servent en général les Jardins Botaniques ?
Alors ça a déjà un rôle de conservation hein, au niveau des espèces et puis de différentes variétés, que ce soit horticoles ou naturelles, sauvages. Après il y a une question de diffusion du savoir, donc hein, la pédagogie, communiquer avec le public. Et puis sinon aussi de la recherche et un rôle aussi social et touristique.
Magnifique. Et le jardin botanique de Port-en-Truy, il est niché en plein cœur de la ville ben justement de Port-en-Truy. Depuis quand est-ce qu'il existe ?
La première tentative a été faite en 1799, mais ça n'a pas duré longtemps, 4 ans. Le jardin botanique tel qu'on le connaît, non-stop, c'est depuis 1833. Et les serres tropicales, elles ont été inaugurées nettement plus tard, en 1962.
Et pourquoi avoir construit un jardin botanique à Port-en-Truy ? Alors je ne dis pas, hein, Port-en-Truy c'est une jolie petite ville, mais pourquoi dans cette ville justement ?
Parce que Port-en-Truy était un chef-lieu de l'évêché de Bâle, puis plus tard d'un département français. Et à ce titre, à l'époque française, justement, un chef-lieu devait avoir une école centrale, ce qui a été fait à Port-en-Truy. Et le jardin botanique s'est greffé sur cette école centrale, qui aujourd'hui est le lycée cantonal. Il est toujours au même emplacement.
Et puis, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez décrire ce jardin botanique, ces lieux ?
Alors déjà, le jardin botanique de Port-en-Truy font partie d'une entité qui s'appelle Jurassica, donc qui regroupe le musée d'histoire naturelle et le jardin botanique. Et donc le jardin botanique est composé en deux parties. Il y a la partie qui est au pied du lycée cantonal, la première partie, donc la partie historique, celle qui est la première qui a été faite. Puis après a été ajoutée, donc comme on a dit, les serres qui sont juste en la rue en dessous. Et c'est là qu'on a des petites serres avec des belles collections à l'intérieur.
Vous l'avez un peu évoqué en début de conversation, le rôle du jardin botanique, c'est la conservation d'espèces locales ou tropicales. Est-ce qu'il y a un rôle précis pour le jardin botanique de Port-en-Truy ?
Disons que c'est un peu le rôle standard des jardins botaniques. On va dire que ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'un jardin botanique, c'est un musée vivant en fait. Donc il y a beaucoup de travail de jardinage et le rôle c'est justement d'accueillir le public et les touristes qui viennent s'émerveiller à la belle saison des plantations et des fleurs. Et on a justement aussi des fois des manifestations qui se passent dans le parc par exemple. Et le but c'est de préserver de la diversité qui soit sauvage ou cultivée. Donc c'est une sorte de banque de données, si on peut dire comme ça. Et puis sinon aussi des programmes de réintroduction de plantes. Par exemple, là on a la fritillaire pintade, qui est une plante qu'on essaie de réintroduire dans son milieu naturel, en collaboration avec le parc du Doubs.
Et puis comment le jardin botanique de Port-en-Truy participe-t-il à la collecte et à la préservation des semences de plantes indigènes qui seraient menacées ?
Alors, des plantes menacées ou pas d'ailleurs, on en a en collection, on récolte les graines et on édite aussi un catalogue à destination d'autres jardins botaniques, d'autres collections. Ça permet des échanges entre différentes institutions à travers le monde qui peuvent nous commander des graines de différentes plantes selon leurs envies.
C'est un peu une grainothèque des jardins botaniques en fait.
Effectivement, oui.
Est-ce qu'un privé pourrait consulter ce catalogue pour avoir quelques graines, par exemple, d'une fougère ou d'une orchidée qu'il aimerait ?
Normalement pas, c'est plutôt destiné aux institutions.
Très bien, merci beaucoup Marc et Gilles. Après la météo et l'inforoute, nous parlerons plus en détail des serres. On a déjà parlé de la serre des succulentes et de la serre des orchidées, mais il y en a d'autres encore. Toutes ces serres qu'on peut visiter du côté du jardin botanique de Port-en-Truy. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières ont quitté le potager et nous visitons le jardin botanique de Port-en-Truy en compagnie de deux jardiniers, Marc Lamblet et Gilles Monnier.
Et en première partie d'émission, nous avons parlé de l'histoire du jardin botanique. Il est temps de parler plus en détail des serres. Quel type de serres votre jardin botanique abrite-t-il et quelles sont leurs spécificités ?
Alors en fait, on a 6 serres qu'on peut visiter qui est visitable par le public. Donc en fait, chaque serre va représenter un milieu particulier, donc un biotope, un milieu naturel particulier. Donc il y aura un climat qui sera lié à ces serres. On a des serres tropicales qui sont dans l'ordre de 23 degrés avec beaucoup d'humidité, donc il fait bien chaud dedans. Et on a d'autres comme la serre des cactus qui, elle, est à moins d'ombrage, elle descend plus bas. Elle peut aller jusqu'à 10 degrés. Par contre, quand il fait très chaud en été, ça peut vraiment monter aussi plus chaud et tout. Donc ces serres sont calquées en fonction des biotopes. On a aussi des serres un peu plus fraîches pour les orchidées. Donc faut savoir que certaines orchidées tropicales, en fait, elles vivent dans la jungle, mais souvent en altitude, des fois jusqu'à plus de 1000 mètres. Et du coup, il fait pas forcément très très chaud tout le temps. On a des températures de 15 degrés environ. On a pris une serre méditerranéenne qui, elle, est aussi un peu plus tempérée. Il peut faire un peu chaud en été, mais là aussi, on va être plus frais aussi en hiver.
On va parler un peu des collections de plantes qu'on peut trouver dans vos serres. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est une collection ? Qu'est-ce que ça englobe ?
Une collection, c'est par exemple, on va partir du principe qu'on va regrouper les orchidées, pour revenir sur les orchidées, donc c'est une famille de plantes, et là on va pouvoir, comme elles ont aussi un climat qui est homogène, on va les mettre ensemble, et puis on aura une diversité d'espèces et de couleurs, de formes, de tailles, et on aura un regroupement d'une certaine famille, d'un certain groupe de végétaux.
Alors là, vous nous avez parlé des orchidées plusieurs fois qu'on trouve dans les serres. Quelle autre principale collection on peut trouver à Port-en-Truy ?
Alors, juste à côté des orchidées, on a une grande collection de Tillandsia. Ce sont des plantes qui vivent de manière épiphyte, donc sur des autres plantes. Elles n'ont pas vraiment de racines et elles prennent l'humidité de l'air pour se nourrir et les quelques minéraux qui sont en suspension. Et c'est là aussi, on a la plus grande collection de Suisse, c'est plusieurs centaines d'espèces. Et c'est une plante qui fait partie de la famille des ananas, en fait. Mais le Tillandsia en question, c'est un peu plus pour les fleurs et la plante en elle-même. On a aussi une grande collection de cactus, comme on a évoqué précédemment. On a une collection de plantes carnivores, qui intéresse aussi beaucoup, particulièrement les enfants, que je vous invite à venir voir. Une collection de fougères. On a des fougères plutôt tropicales, en l'occurrence, là. On a des bégonias aussi, qui ont des formes très variées en matière de feuilles et de couleurs, et de floraison aussi. On a différentes dites plantes vertes, tropicales, donc on peut aussi parler d'une collection. Et des plantes aussi utilitaires, tropicales, qu'on a aussi dans les serres tropicales. On peut trouver du cacao, ou bien du coton. C'est toutes des choses intéressantes qu'on peut venir voir dans nos serres tropicales.
Mais alors, expliquez-nous comment est-ce que vous sélectionnez au juste les plantes à exposer dans ces serres. Est-ce qu'il y a des critères particuliers ?
On va chercher d'abord à enrichir les collections qu'on a déjà, en acquérant des nouvelles plantes qui peuvent être cohérentes avec ce qu'on a. Mais il y a aussi des coups de cœur, des donations de particuliers. Et on a aussi une commission scientifique de Jurassica qui propose des plantes qu'on cherche à obtenir ensuite dans les catalogues de graines dont on a parlé avant, ou aussi par échange avec d'autres jardins botaniques.
Merci Marc. Si vous deviez nous parler d'une serre, ça serait laquelle ? Vous nous avez un petit peu parlé de la serre des succulentes, vous Marc, que vous appréciez. C'est vraiment celle-ci qui vous tient à cœur ?
C'en est une, mais il y en a d'autres. On peut parler aussi de la serre des plantes carnivores. On a quand même quelques dizaines d'espèces. Et c'est fascinant de voir ces plantes comme elles sont vivantes. Enfin, elles sont toutes vivantes, les plantes, mais la façon dont elles se meuvent, dont elles bougent, parfois visiblement, pour capturer les insectes et les assimiler.
Et vous, Gilles, une plante que vous aimez, que vous admirez en particulier dans les serres du jardin botanique de Porrentruy?
Alors, je vais revenir avec les orchidées. Donc, actuellement, on a une magnifique floraison d'une fleur qu'on appelle une orchidée, qu'on appelle une Nangraecum pour les longicalars, pour les petits noms barbares, pour les spécialistes, d'une orchidée qui vient de Madagascar. Et pour la petite anecdote, en fait, il y a une autre orchidée de ce même genre qu'on appelle l'orchidée de Darwin. Il faut bien savoir que ce genre, en fait, ils ont un, en tout cas celle dont je vous parle, il y a un long tube à l'arrière de la fleur avec donc qu'on appelle un éperon et tout qui fait plusieurs en l'occurrence la nôtre elle fait plus de 30 cm et tout il y a du nectar juste les quelques derniers centimètres au fond de l'éperon. Et pour revenir sur celle de Darwin, qui est une espèce qu'on n'a pas chez nous, mais qui a pas dans le jardin, mais qui vient aussi de Madagascar. En fait, Darwin, il se posait la question quel animal était capable de polliniser, d'aller prendre le nectar qui était au fond de cette orchidée. Et il a émis l'hypothèse qu'en fait, il s'agissait d'un papillon de nuit qu'on appelle un sphinx, qui a une très longue trompe et qui pouvait aller jusqu'au fond de cet éperon pour prendre le nectar. Alors en fait, lui à l'époque, il connaissait pas de sphinx de Madagascar qui avait forcément une trompe assez longue, mais il en a fait l'hypothèse. Il a fait aussi l'hypothèse que ça devait être un papillon de nuit qui l'a fertilisé parce qu'en fait, elle dégage une odeur, un parfum la nuit. Et c'est ça qui fait que ben il a déduit que c'est un papillon de nuit qui l'a pollinisé. Et en fait, c'est bien après sa mort qu'on a découvert, on a retrouvé l'insecte, le papillon en question, qui effectivement pollinisait cette plante. Et pour revenir sur notre espèce à nous, donc notre Nangraecum longicalar qu'on a chez nous, dans notre jardin botanique, l'éperon est encore plus long, donc on n'a en fait jamais trouvé encore le papillon de nuit qui est capable de polliniser cette fleur. Donc il est certainement quelque part au fin fond de la jungle à Madagascar, mais pour l'instant on l'a encore pas trouvé, donc ça met en évidence toute la fragilité des écosystèmes et des plantes, et en l'occurrence la magnifique coévolution qu'il y a entre les insectes et les fleurs, et ça prouve que la disparition d'un seul insecte peut aussi faire disparaître la plante qui lui est liée et vice versa. Donc la destruction de la jungle va détruire plein d'espèces de ce style. Et non seulement des fleurs, mais également justement des insectes qui sont aussi liés, une diversité monumentale.
Merci beaucoup pour cette anecdote qui fait quand même bien réfléchir. Vous êtes, Gilles Monnier et Marc Lamblet, jardiniers au Jardin botanique de Porrentruy. On va se retrouver dans quelques minutes. On va parler cette fois-ci du jardin jurassien.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Marc Lamblet et Gilles Monnier, jardiniers au jardin botanique de Porrentruy. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé des serres. Parlons maintenant du jardin jurassien. Alors, en quelques mots, bon, on peut le deviner dans son nom, mais c'est quoi ce jardin jurassien ?
Alors, donc, le jardin jurassien, c'est une partie du jardin botanique qui est en hauteur vers le lycée cantonal. Et en fait, ce sont des plantes indigènes, donc des plantes locales, qui poussent justement dans la région de l'arc jurassien, donc la Jura géographique. Et on a une reconstitution de différents biotopes qui vont du bord du lac de Bienne, donc du Zélande, jusqu'au sommet du Chasseral, par exemple, ou bien des sommets de l'arc jurassien. Et on va trouver, par exemple, des milieux aquatiques avec des roselières, des choses comme ça qu'on peut trouver au bord du lac. Et des prairies d'altitude qu'on va trouver sur les plaines de montagne.
Quel est exactement le rôle de ce jardin ?
Alors, le rôle du jardin, c'est un peu comme l'ensemble du jardin botanique, c'est-à-dire que c'est une collection pour protéger différentes variétés, différentes espèces. Et ça a aussi un rôle pédagogique, par exemple aussi pour le lycée cantonal, s'ils veulent faire un peu connaître les plantes locales, ou bien pour tout autour de personnes qui veulent apprendre à connaître les plantes indigènes qui poussent dans notre magnifique région.
Est-ce que dans ce jardin jurassien, qui est, comme vous l'avez dit, un musée vivant, on trouve des variétés de plantes qu'on ne trouve plus dans la nature ?
Plus du tout, peut-être pas, mais peut-être certaines, oui, dans les plantes grasses en particulier, on peut avoir des plantes qui ont disparu du milieu naturel. Dans les pays tropicaux d'où elles sont originaires. Au point de vue local, on a aussi des plantes qui ont disparu du Jura. On a un exemple assez récent, c'est la gage évolue, qui est une petite plante bulbeuse jaune qui fleurit assez discrètement au début du printemps, qui était signalée dans le Jura, dans la région de Porrentruy, il y a encore un siècle, mais plus depuis. Et on l'a retrouvée il y a 2 ans dans des pelouses au jardin botanique, où elle avait certainement discrètement filé suite à des cultures qu'on avait au 19e siècle. Elle a passé inaperçue, on l'a retrouvée donc il y a 2 ans, et grâce à ça, on a pu commencer un projet de réintroduction à Porrentruy, grâce à ces plantes qui ont été préservées dans le jardin botanique, un peu à notre insu, il faut le reconnaître.
Et puis on le remarque, le climat change, la nature tente de s'adapter. Est-ce que de nouvelles plantes sont arrivées dans le jardin, des plantes qui ne vivaient pas dans le Jura auparavant ?
Dans le jardin même, pas vraiment, disons, si on regarde de manière plus large dans le Jura. Alors oui, il y a effectivement des plantes qui arrivent régulièrement. On dit que ce sont des néophytes, donc des nouvelles plantes qui n'étaient pas dans la flore autrefois. Et ça arrive régulièrement. Certaines sont invasives, donc elles posent des problèmes par leur expansion incontrôlée. D'autres sont sur le point d'arriver, par exemple le Saint-Son du Cap, qui est bien répandu le long des autoroutes dans la région lémanique ou dans la région de l'autre côté de la frontière entre Belfort et Montbéliard et Mulhouse, par exemple, et qui frappe aux frontières du Jura, qui commence à y entrer ici ou là. Et peut-être dans quelques années, on sera dans la même situation que nos voisins.
Si on vient visiter ce jardin jurassien, est-ce qu'il y a une plante qu'il ne faut pas louper, qui est vraiment belle ou qui a un petit truc en plus ?
Disons qu'il y a toujours, il y en a plein, disons, hein, qui sont magnifiques à voir. Donc je vous invite à le voir de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est de venir aussi régulièrement, parce qu'il y a toujours des nouvelles floraisons, des nouvelles choses qui poussent. C'est vivant, c'est ça qui est intéressant. Mais comme je vous ai parlé avant de l'orchidée avec le grand éperon, il faut... Si vous voulez venir maintenant, elle fleurit pas tout le temps, et puis là, elle va fleurir encore quelques jours, peut-être quelques semaines, et puis après, la floraison va passer. On a aussi, par exemple, des fois ce qu'on appelle un amorphophallus, c'est une immense fleur qui fait une plante à bulbe qui fait une grande fleur, qui a une odeur putride, mais qui a une immense floraison impressionnante. On a aussi, au printemps, on a les iris qui sont un incontournable du jardin, une belle floraison, une belle collection d'iris qu'on a dans le jardin près du lycée. Et en fait, je vous invite aussi à suivre l'actualité sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où on indique ce genre de phénomène quand c'est le moment.
Merci beaucoup Marc et Gilles, vous êtes jardinier au Jardin Botanique de Porrentruy et nos invités jusqu'à 8h. On se retrouve une dernière fois après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous parlons du Jardin Botanique de Porrentruy en compagnie de Gilles Monnier et Marc Lamblet, tous deux jardiniers. Depuis 7h, vous nous avez présenté le Jardin Botanique, parlé un peu de son histoire, des serres du Jardin Jurassien. S'il fait froid dehors, il fait toujours chaud dans les serres. Vous pouvez avoir les heures d'ouverture et les renseignements, tout ça c'est sur jurassica.ch. Et puis vous comptez une bonne heure pour visiter toutes ces serres et le Jardin Botanique, histoire d'y aller tranquille et de ne rien louper. On avait parlé banane en début d'émission et je crois, Brian, on a justement reçu une question à propos d'un bananier.
Et oui, c'est Véronique de Moutier qui nous envoie cette question. Bonjour, mon bananier a été trop arrosé cet été pendant mes vacances. À mon retour, je l'ai laissé tranquille et plus du tout arrosé pour qu'il sèche. Il a perdu beaucoup de feuilles. Je n'ai pas le sentiment que son état s'améliore. Même la nouvelle feuille est déjà jaunie ou brune lors de sa pousse. Comment puis-je le sauver ? Manque-t-il d'eau ? Faut-il le rempoter ? Est-ce éventuellement dû à la racine qui a pourri ? Et elle nous remercie déjà d'avance. Est-ce que l'un de vous deux a une réponse à donner à Véronique ?
Alors ça, c'est vraisemblablement un problème d'arrosage à la base. Le mieux serait effectivement la dépoter, voir les racines commencer, enlever la terre pourrie, les racines abîmées, et rempoter dans un pot plus petit, vraisemblablement, en tout cas si les racines ont disparu ou sont à moitié pourries. Ceci dit, ce n'est pas vraiment la bonne saison pour le faire. Il manque de lumière, donc le pronostic n'est pas forcément très favorable, mais c'est un essai à faire. Et supprimer aussi quelques feuilles qui seraient en train de jaunir, qui, si on les coupe, elles ne pomperont plus trop d'eau. Ça permettra de maintenir un équilibre entre les quelques racines qui restent et le feuillage.
Merci beaucoup Marc pour l'aide apportée à Véronique. On est presque au bout de l'émission. Gilles, si vous pouviez faire venir une plante dans le jardin botanique, ça serait laquelle et pourquoi ?
Vous voulez vraiment que je vous dise son nom ?
Allez-y, on n'a peur de rien chez les jardinières.
Alors, je dirais Telimitra Toulcherima. Désolé, j'ai pas trouvé de nom français. C'est une orchidée qui pousse en Australie dans le désert. Enfin, en tout cas, le genre en manière générale pousse en Océanie, puis aussi en Indonésie. Et la Toulcherima, elle pousse dans le désert en Australie et elle a des couleurs absolument magnifiques. La première fois que je l'ai vue en photo sur Internet, j'ai cru que c'était photoshopé parce que le contraste est impressionnant. Donc je vous invite à voir les photos sur Internet, c'est assez claquant, mais c'est une espèce qui n'est pas facile à maintenir en culture, donc ce serait une super espèce, quoi, mais dans l'idéal.
Et même question pour vous, Marc, est-ce qu'il y a une plante, selon vous, qui manque à la collection de Porrentruy?
On pourrait mentionner une plante qui a un nom un peu plus facile, le gnétome. C'est une liane tropicale, mais qui a des traits archaïques, et qui pourrait trouver sa place dans le secteur où on cultive des plantes panchroniques, ça veut dire des plantes fossiles, comme on dit couramment, des plantes de l'époque des dinosaures. On a un petit secteur comme ça dans la grande serre tropicale.
Merci Gilles Modnier et Marc Lamblet d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé une heure en notre compagnie. Toutes les informations sur le jardin botanique de Porrentruy sont sur le site jurassica.ch. On va mettre bien sûr le lien sur la page des jardinières en cours de matinée, tout comme le podcast de cette émission et quelques photos qu'on a pu prendre quand nous sommes allés visiter le jardin botanique. Mais si on vous souhaite un très bon week-end et au plaisir de vous croiser du côté des jardins botaniques de Porrentruy.
Et puis, la semaine prochaine, nous serons toujours dans le Jura. Mais pour parler de sapins, Noël approche et il est temps de choisir celui qui trônera dans le salon. En compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste, nous allons tout vous dire sur le roi de la forêt.
Les jardinières en direct du marché de Porrentruy, ça sera donc samedi prochain de 7h à 8h. Et puis si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir nous dire bonjour. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end Brian et merci encore Gilles Monnier et Marc Lamblet. On vous souhaite un tout bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.